Le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Luc Mélenchon demande l'annulation des perquisitions de mardi et la restitution de tout ce qui a été saisi par la justice dans les locaux de la France Insoumise dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de malversation pendant la campagne présidentielle de l'an dernier. Dans une longue conférence de presse cet après-midi, le leader de la France Insoumise s'en est pris à la justice et aux médias, notamment à Radio France, en raison de l'enquête du service investigation que vous pourrez écouter dès le début de ce journal, en plus du compte-rendu de Sophie Delpont, qui était cet après-midi au siège de la France Insoumise. Dans ce journal également, des nouvelles d'Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée, s'exprime dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles où il revient sur l'épisode du selfie du chef de l'État en compagnie de deux jeunes habitants de Saint-Martin dans les Antilles françaises, ce qui le fait se contredire lui-même. Précision d'Antoine Maret. À l'étranger, au Brésil, l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle s'envenime. La gauche dénonce l'orchestration d'une campagne de désinformation sur Fernando Haddad. Son rival, Jair Bolsonaro, aurait, d'après ses accusateurs, monté une organisation criminelle avec de l'argent sale pour mener une campagne frauduleuse sur la messagerie instantanée WhatsApp. Explication à Rio d'Anne Vigna. Un compromis a finalement été trouvé à Air France. 6 mois après le début du conflit salarial au sein de la compagnie, chaque partie a visiblement fait son chemin et l'accord trouvé a été signé tout à l'heure à une écrasante majorité par 4 syndicats. C'est un premier succès pour le nouveau directeur général de la compagnie, Ben Smith, tout autant que pour les salariés qui bénéficieront d'une augmentation générale. Isabelle Raymond.
C'est une belle victoire pour le nouveau patron d'Air France. Le Canadien Ben Smith a obtenu un accord salarial à une écrasante majorité, plus de 76% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Tous les syndicats de la compagnie, à l'exception de la CGT et du puissant syndicat de pilotes SNPL, approuvent cet accord qui prévoit 2% de hausse de salaire en 2018 et 2% l'an prochain. La direction et les syndicats ont trouvé un compromis. Les organisations ont revu à la baisse leurs exigences de ce début d'année qui avait conduit à 15 jours de grève et entraîné 335 millions d'euros de pertes pour l'entreprise. De son côté, la nouvelle direction est allée plus loin que la dernière proposition de Jean-Marc Janaillac, rejetée en mai par référendum, ce qui avait entraîné sa démission. Cette page est donc tournée et les 45 000 salariés d'Air France peuvent désormais affronter l'avenir plus sereinement, voir quels sont les projets de Ben Smith pour relancer la compagnie aérienne dans un contexte extrêmement concurrentiel.
Isabelle Raymond, Ryanair de son côté a annoncé aujourd'hui être parvenu à un accord sur les rémunérations et sur les modes de rémunération avec ses pilotes en Grande-Bretagne, en Italie et au Portugal, ce qui a été immédiatement démenti par le syndicat britannique des pilotes qui, lui, ne parle pas d'accord mais de projet d'accord. Sophia Chikirou, conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, entendue aujourd'hui dans l'affaire des comptes de campagne de la France Insoumise lors de la présidentielle de l'an dernier. Le parti de Jean-Luc Mélenchon parle d'une nouvelle campagne d'affabulation à son encontre qui serait orchestrée par le pouvoir et par l'exécutif et désormais accuse également la radio de service public, Radio France, et donc France Culture de faire, comme la justice, le jeu du pouvoir en place. Nous allons y revenir dans un instant avec Sophie Delpont. Bonsoir.
Bonsoir.
Du service politique de France Culture. Accusation portée en raison de la diffusion aujourd'hui sur notre antenne d'une enquête journalistique, celle-là, sur des soupçons de surfacturation. Cette enquête de journaliste, c'est vous qui l'a signée, Sylvain Tronchet. Bonsoir.
Bonsoir Benoît.
Du service investigation de Radio France. 3 jours après la douzaine de perquisitions menées au domicile de Jean-Luc Mélenchon et dans son entourage, ainsi que dans les locaux de la France Insoumise, vous revenez sur les soupçons à l'encontre de la France Insoumise pour escroquerie, abus de confiance, infraction à la législation sur le financement des campagnes électorales et travail dissimulé aggravé. Sylvain, que soupçonnent précisément les enquêteurs ?
Bien, ce qu'il soupçonne, hein, c'est qu'il y a eu des surfacturations pendant la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. En clair, que certains prestataires qui ont travaillé pour lui aient fait payer leurs services très cher, trop cher. Le candidat a payé les factures et derrière, il a présenté ces factures à l'État pour se faire rembourser. Parmi elles, il y avait les factures de Mediascope, la société de sa communicante, Sophia Chikirou, qui a réalisé pour près d'1 200 000 euros de prestations sur cette campagne.
Alors ces factures, Sylvain, vous les avez décortiquées diagnostiquée, qui avez-vous trouvé ?
Eh bien, que certains services facturés par Mediascope semblent chers. Par exemple, lorsqu'un employé de l'agence de communication mettait en ligne un discours sur Internet, ça prend 10 minutes à tout casser, c'est ce que vous faites quand vous postez sur Facebook une vidéo de vos vacances. Eh bien, ça, c'était facturé 250 euros. Et ils ont mis en ligne 19 discours, donc 19 fois 250, ça fait 4550 euros pour 2h30 de travail en tout. Et puis, il y a d'autres exemples. Le sous-titrage de vidéo, par exemple. En général, ça vaut 15 euros la minute sous-titrée. Là, Mediascope faisait payer 200 euros la minute sous-titrée. Et d'une façon générale, le travail de tous les salariés de Mediascope semble avoir été saucissonné en des dizaines de prestations. Et cela pourrait avoir contribué à faire monter la facture totale jusqu'au travail de Sofia Chikirou elle-même.
L'actionnaire unique de Mediascope, combien facturait-elle son travail ?
Eh bien, à première vue, pour ses fonctions de directrice de la communication, quand on regarde les factures, elle facture 80 000 euros sur la campagne. Sur 8 mois, ça fait 10 000 euros en moyenne. Mais elle faisait payer bien d'autres choses. En plus, quand elle écrivait les voix off d'un spot de campagne, c'était 6 000 euros. Elle supervise les animateurs d'un meeting, 2 000 euros. Elle fait la programmation d'une émission, 3 000 euros. Son travail, en fait, au total, aurait été facturé en moyenne 15 000 euros par mois.
Oui, mais 15 000 euros qui ne sont pas un salaire. C'est la facture d'une entreprise qui doit payer ses charges aussi.
Effectivement, mais on peut aussi remarquer que Mediascope a très peu de charges. C'est une société qui n'a pas de locaux. Elle est hébergée par l'association de campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui paye tout, hein, jusqu'au forfait téléphonique, la facture de l'expert comptable. Et ça, ça signifie potentiellement que lorsque Mediascope facture une vidéo, par exemple, au prix du marché, eh bien, son bénéfice peut être nettement plus important que celui d'une agence de com lambda. Mediascope n'a pas publié ses comptes 2017, mais j'ai vu les comptes 2016, qui correspondent au premier règlement de la campagne. La société fait 47% de marge nette, ce qui est très important.
Est-ce que vous avez rencontré Sofia Chikirou pendant cette enquête, Sylvain ?
Non, elle n'a pas souhaité répondre à mes questions. Son avocat, David Marais, nous a dit qu'il considérait que toutes les accusations portées contre elle étaient fausses et dues, dit-il, aux élucubrations d'un ancien rapporteur de la commission des comptes de campagne contre lequel il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse.
Merci Sylvain Tranchet. Votre enquête est disponible en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Alors Sophie Delpont, vous étiez tout à l'heure à la conférence de presse de la France Insoumise où une nouvelle fois le travail des journalistes a été conspué, autant que celui de la justice d'ailleurs. Une nouvelle fois, l'enquête que l'on vient d'entendre a été reléguée au rang de service après-vente de la diffamation politique.
Oui, Jean-Luc Mélenchon a multiplié les attaques, répétant que cette perquisition résulte d'une stratégie politique du pouvoir visant à affaiblir la France Insoumise et dont Radio France aurait pris le relais.
Clairement, c'est une offensive délibérée. À la suite de quoi, la radio de l'État s'est lancée dans ce qu'ils appellent une investigation. Une série d'affirmations diffamatoires et calomnieuses. Ce sont donc un ensemble de procédés qui ont allumé le feu. Et nous avons aujourd'hui vu une journée entière d'informations en continu qui ont relayé des informations fausses.
Un ton véhément, hein, vous l'entendez, Jean-Luc Mélenchon, qui rejette toute surfacturation et qui répond sur plusieurs éléments de l'enquête.
Et nous voyons apparaître des experts sur le plateau qui disent « ça prend 2 minutes de passer une vidéo ». C'est naturellement quelqu'un qui ne connaît absolument rien à ses métiers. Non, ça n'est pas 5 minutes. J'ai même entendu quelqu'un d'autre dire une bêtise encore plus grosse. Sous-titrer un discours de 2 heures, ça prend à peine 30 minutes. Non, au moins faut entendre les 2 heures. Ça prend 2 heures, ça prend pas 30 minutes. J'en foutre.
Voilà pour l'insulte et le ton de cette réponse de Jean-Luc Mélenchon, qui a aussi qualifié l'ancien rapporteur de la commission des comptes de campagne, Jean-Guy de Chalvron, à l'origine des premières révélations, d'être vil et dégénéré. Jean-Luc Mélenchon est également revenu sur les images de la perquisition de mardi au siège de la France Insoumise et sur certains de ses propos hurlés aux policiers.
L'expression « ma personne est sacrée » est une expression dont vous trouverez l'explication dans Le Littré, un dictionnaire bolchevique bien connu, dans lequel on fait référence à l'histoire profonde qui fait que les tribuns du peuple, dont je m'honore de faire partie, et les parlementaires, depuis la Première République en France, sont déclarés inviolables.
Le chef de file de la France Insoumise a également réitéré son soutien inconditionnel à Sofia Chikirou, la directrice de Mediascope, Sofia Chikirou, qui elle sera à nouveau entendue lundi dans le cadre de cette enquête.
Merci Sophie Delpont. Jean-Luc Mélenchon qui s'est par ailleurs dit désolé tout à l'heure pendant cette conférence de presse, désolé d'avoir tourné en dérision l'accent d'une journaliste de France 3 cette semaine dans la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale. Politique et justice toujours, les juges annoncent avoir fini leurs investigations dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs de la femme et des enfants de François Fillon. Le parquet national financier a désormais 3 mois pour donner son avis sur un éventuel procès de l'ex-candidat de la droite à la présidentielle l'an dernier. Ce sera ensuite au juge de rendre une décision. Alexandre Benalla s'exprime à nouveau, cette fois-ci dans les colonnes de l'hebdomadaire ultra-conservateur Valeurs Actuelles. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron s'est confié au magazine, notamment sur sa relation avec le chef de l'État. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Une des déclarations d'Alexandre Benalla qui a retenu votre attention, quelle est-elle ?
Eh bien, c'est un encadré au milieu de cet article, un commentaire presque anodin au premier abord d'Alexandre Benalla sur la photo réunissant Emmanuel Macron et deux hommes à Saint-Martin, l'un d'entre eux faisant un doigt d'honneur. L'ancien collaborateur du chef de l'État affirme à propos de ce cliché qui a fait polémique, je cite, « Avec moi, la photo n'aurait jamais pu être prise, les mecs n'auraient pas pu toucher le président et le selfie, je l'aurais évité. » Fin de citation. Jean-Pierre Sueur est le co-rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur Alexandre Benalla.
Il dit qu'il exerçait une sorte de rôle de sécurité rapprochée qui consistait finalement à choisir les personnes auprès desquelles M. Macron se trouvait ou à écarter un certain nombre de personnes.
Sauf que ce commentaire d'Alexandre Benalla est en contradiction avec les propos qu'il a tenus devant les sénateurs lors de la commission d'enquête. Il affirmait alors ne pas s'être occupé de la sécurité rapprochée du chef de l'État, n'avoir été à aucun moment son garde du corps, avoir eu un rôle de simple collaborateur. Une déclaration qui avait surpris beaucoup de monde et qui semble désormais démentie par le principal intéressé lui-même.
Merci Antoine Maret. À un peu moins de 10 jours du deuxième tour des élections présidentielles au Brésil, les fake news pourrissent encore un peu plus un climat de campagne déjà délétère. Fernando Haddad, le candidat de la gauche à la présidentielle, a accusé hier son rival d'extrême droite, Jair Bolsonaro, d'avoir monté une organisation criminelle avec de l'argent sale pour orchestrer une campagne de messages et de fausses informations donc sur la messagerie instantanée WhatsApp, très utilisée au Brésil. Accusation qui se base sur des révélations de la presse. À Rio, notre correspondante Anne Vigna.
Le journal La Folia de São Paulo a révélé que des entreprises qui appuient le candidat Bolsonaro ont financé l'envoi de messages WhatsApp contre la gauche et son candidat Fernando Haddad avant le premier tour de l'élection présidentielle. WhatsApp est utilisé par 120 millions de Brésiliens sans aucun contrôle des autorités judiciaires ni des agences de vérification. Toujours selon La Folia, les mêmes envois de fake news étaient prévus à partir du 22 octobre, soit une semaine avant le deuxième tour de l'élection. Le Parti des travailleurs demande à la justice d'agir au plus vite contre les fake news, mais aussi contre ces entreprises, puisque le financement privé est illégal au Brésil. Le tribunal supérieur électoral a convoqué une conférence ce vendredi sur ce thème. La conférence sera donnée par la présidente du tribunal, Rosa Weber, le ministre de la Défense et le chef des forces armées. La presse brésilienne s'étonne de la présence des militaires. Ce serait en effet la première fois depuis la fin de la dictature militaire en 1985.
Anne Vigna. En Italie, le projet de budget pour 2019 continue à faire des vagues au sein de l'Union européenne qui scrute la situation à la loupe. Aujourd'hui, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, était à Rome où il a expliqué lors d'une conférence de presse qu'il souhaitait un dialogue constructif avec le gouvernement italien pour, dit-il, tenter de faire baisser la tension sans pour l'instant annoncer de décision. Et décidément, les institutions européennes ont bien du mal ces temps-ci avec de nombreux pays membres, outre la situation italienne, le Brexit, les détournements de fonds en Hongrie. Voici un nouveau bras de fer qui vient de s'aggraver entre la Commission européenne et le gouvernement polonais, gouvernement qui entend mettre la justice à son service. Les explications depuis Bruxelles de notre correspondant permanent, Quentin Dickinson.
Il y a 6 mois, le gouvernement polonais promulguait une loi mettant d'office à la retraite les juges de la Cour suprême du pays ayant atteint ou dépassé les 65 ans, quelle que soit la durée du mandat qu'il leur restait à assurer. Parallèlement, le nombre de juges de la haute instance était porté de 90 à 120, les nominations faisant désormais l'objet de décisions politiques, en l'occurrence sous forme de décret du président de la République. Gardienne des traités, la Commission européenne dénonce alors cette atteinte évidente à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, principe élémentaire de toute démocratie parlementaire, et cite les autorités polonaises à comparaître en référé devant la Cour de justice de l'UE à Luxembourg. Compte tenu de l'urgence, puisque les limogeages et les nominations ont déjà commencé, la vice-présidente de la Cour européenne vient de rendre une ordonnance provisoire enjoignant au gouvernement polonais de se remettre en conformité dans les plus brefs délais avec les valeurs cardinales de l'Union européenne. Après avoir entendu les parties au litige, la Cour rendra une ordonnance définitive à une date ultérieure. Si le gouvernement polonais devait s'obstiner, l'UE ne pourrait que constater que les personnes physiques ou morales comparaissant devant n'importe quel tribunal en Pologne n'auraient pas accès à un système judiciaire indépendant. Pour la même raison, les mandats d'arrêt européens lancés par un juge polonais ne pourraient plus être suivis d'effet.
Quentin Dickinson à Bruxelles. Un sommet sur la Syrie fin octobre à Istanbul, il a été annoncé aujourd'hui ce sommet. Il réunira les dirigeants turcs Recep Tayyip Erdogan, russes Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Il portera sur la situation à Idlib, dernier grand bastion de l'opposition en Syrie, et sur le processus politique qui est censé aboutir à un règlement du conflit. L'Élysée, dans l'après-midi, a confirmé la présence d'Emmanuel Macron à ce sommet, sauf en cas d'offensive militaire à Idlib d'ici là. Mais le processus politique dont il est question a-t-il une chance d'aboutir? Écoutez les précisions et l'analyse depuis Beyrouth de notre correspondant Aurélien Colli.
Il y a la guerre qu'il faut gagner et c'est chose faite pour Vladimir Poutine qui a permis au régime de Bachar al-Assad de se maintenir et de reconquérir une bonne partie de son territoire. Mais il y a la paix qu'il faut réussir et ça c'est beaucoup plus compliqué. Vladimir Poutine le sait, lui qui a déjà fait un compromis sur Idlib en refusant l'assaut meurtrier rêvé par Damas, dont il aurait dû assumer la responsabilité, pour privilégier un accord avec la Turquie par un des rebelles modérés, crédible pour un processus de paix. Mais le chef du Kremlin le sait aussi, pour stabiliser et reconstruire la Syrie, les Occidentaux et leurs alliés, les monarchies du Golfe, sont également incontournables. Ni son pays ni l'Iran n'ont les moyens de financer un tel chantier. Alors après les bombes et un processus politique écarté, retour aux discussions avec les Américains d'abord, via la Turquie. Washington a salué l'accord sur Idlib, mais garde un levier contre la réhabilitation du régime syrien, des troupes dans l'est du pays, la région riche en ressources naturelles indispensables à Damas. Discussion ensuite avec les Européens, là encore via la Turquie, avec ce sommet où l'on reparlera enfin processus politique, sans que le départ de Bachar al-Assad soit une condition préalable, car la France et l'Allemagne, sur la touche, y ont tout intérêt, et la Russie désormais aussi.
Aurélien Colli à Beyrouth. Des élections demain en Afghanistan. 2500 candidats sont lancés dans la course au Parlement pour briguer un des 249 sièges remis en jeu. Parmi ces candidats, de nombreux jeunes issus du monde des médias notamment et de la communication. Ils espèrent changer les choses dans un pays où 64% de la population a moins de 25 ans, mais où les chefs de guerre finissent toujours par imposer leur choix. La campagne électorale en Afghanistan, sous l'angle du conflit intergénérationnel, c'est un reportage à Kaboul de Sonia Ghezali.
Dans une pièce qui jouxte le bureau de la candidate Sahar Soheila, son assistante, stylo à la main, téléphone à l'oreille, écoute patiemment. Au bout du fil, un admirateur de la jeune candidate. À 25 ans, la directrice d'une école privée à Kaboul veut faire entendre sa voix et celle de ses électeurs.
On fera un travail d'équipe avec les autres jeunes députés quand je serai au Parlement. Je veux révolutionner les esprits. Pour les jeunes qui finiront leurs études et qui n'auront pas de travail, nous devons créer des industries pour qu'ils soient embauchés. Il faut que nous, les jeunes au Parlement, on change l'état d'esprit de la nouvelle génération.
Une révolution au sein du Parlement, c'est aussi l'ambition du candidat Mousselim Shirzad, 28 ans. Ancien présentateur phare d'une émission politique à la télévision afghane, il a lancé il y a 4 ans une école de sciences politiques et croit en son élection.
Si vous êtes jeune, en particulier dans un pays comme l'Afghanistan, vous êtes énergique, vous avez l'intention de travailler pour votre peuple. Vous connaissez la souffrance de cet homme-là plus qu'un autre plus âgé. Vous connaissez l'atmosphère. Et je ne suis pas arrivé comme ça de nulle part. J'ai travaillé dans ce pays, je me suis battu et j'ai réussi à gagner la confiance de la population.
Si les affiches de jeunes candidats ornent les murs de nombreuses villes afghanes, Nasrullah Stanikzai, enseignant en sciences politiques, ne croit pas au changement.
Nous n'avons pas de parti politique fort au Parlement. Le gouvernement fait des ingérences dans ces affaires. c'est un autre problème. Les chefs de guerre et la mafia sont actifs et ont du pouvoir au sein du Parlement. Il y aura beaucoup de difficultés pour le prochain Parlement, les mêmes que celles qui existent pour l'actuel.
Comment les jeunes, même s'ils sont élus, pourraient-ils faire face à un système corrompu, se demandent certains de leurs électeurs. Plusieurs candidats travaillent depuis plusieurs semaines à la formation d'une coalition de jeunes au sein de l'Assemblée en cas de victoire.
Reportage à Kaboul de Sonia Ghezali. Encore une journée beaucoup trop chaude sur la plupart des régions. Demain samedi, la sécheresse historique va continuer, aggravant encore un peu une situation déjà catastrophique sur un grand quart nord-est du pays. Et les températures maximales entretiendront une moyenne des températures pour le mois d'octobre qui s'annonce relativement effrayante. Il fera de 17 à 23 degrés sur la moitié nord et de 21 à 25 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 26 sur l'extrême sud-est.